Radio Kapi.
Oh, Kapi.
D'abord les titres de ce journal. Au Nord Kivu, la tension était vive toute la matinée ce mercredi au quartier Madjengo, dans le nord de Goma et dans les villages d'Urunga. La route urbaine reliant les deux entités a été barricadée pendant un long moment par des jeunes en colère. Les ponts Oulindi sur la rivière du même nom se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Conséquence, paralysie depuis le week-end des trafics entre la ville de Bukavu et le territoire de Mwenga dans le sud Kivu. Notre invité est le conseiller municipal de la commune de Kalemie, Eric Erimirindi, revient sur les mauvaises conditions dans lesquelles fonctionne le conseil municipal faute de moyens. Bonjour à toutes et à tous. Au Nord Kivu, la tension était vive toute la matinée ce mercredi au quartier Madjengo, dans le nord de Goma et dans les villages d'Urunga au sud du territoire voisin de Niragongo. La route urbaine reliant les deux entités a été barricadée pendant un long moment par des jeunes en colère. Ces derniers contestaient le meurtre d'au moins deux membres d'une même famille par des bandits armés dans la ville d'Urunga. Bernard Nyangi.
C'est seulement autour des 11h locales que la police déployée sur place a réussi à dégager le tronçon routier Madjengo Kilijiwe qui était barricadé depuis 8h par la jeunesse en colère de cette partie située sous les limites entre la ville de Goma et le territoire de Niragongo. Les habitants de la zone contestaient un énième cas de meurtre qui a ôté la vie à M. Mamba Kambale et à son épouse, habitant du village d'Urunga. Ce couple a été attaqué dans la nuit autour de minuit par un groupe d'hommes armés inconnus. Certaines sources locales affirment que ce serait un cambriolage qui aurait mal tourné. Alors que les jeunes voisins tentaient d'intervenir, les bandits ont ouvert le feu, tuant les deux parents et blessant grièvement deux autres personnes dans la maison, un garçon et une fille qui ont été conduits à l'hôpital. Les manifestants exigent le renforcement des mesures de sécurité et le contrôle des armes en circulation illicite qui font des victimes presque chaque semaine dans cette partie nord de la ville de Goma, en l'occurrence en commune de Karisimbi, à Goma, et village du sud du territoire de Niragongo. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Au Nord Kivu toujours, fin hier mardi de la mission du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières à Goma. Devant la presse, le ministre a bouclé sa visite de travail en affirmant que sa mission au Nord Kivu entrait dans le cadre d'une mission à caractère sécuritaire, une mission de réconfort aux populations affectées par la guerre et enfin une mission d'information. Écoutons Jacquemain Chabani dans ses propos recueillis par Gabriel Ouamenia.
Bon, c'était une mission à caractère sécuritaire pour nous enquérir de la situation, mais c'était aussi une mission de réconfort. Donc c'est dans ce sens aussi qu'au-delà des réunions de conseil de sécurité que nous avons tenues à Butembo et ici à Goma, nous avons rencontré les forces vives de ces deux villes pour échanger avec eux, pour prendre la température, avoir toutes les informations possibles. Les réconforter aussi parce que le gouvernement est conscient qu'ils vivent dans une situation sécuritaire complexe. Et il était important que le gouvernement soit présent parmi ces populations-là en difficulté. Mais la population doit retenir qu'elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas seule. Le gouvernement de la République est avec elle, à ce dossier-là sur sa table. Tout le monde est sans ignorer que depuis quelques jours, le président de la République a convoqué le Conseil national de défense, qui va nécessairement déboucher sur des décisions importantes, sur la réorganisation du volet sécuritaire.
Du Nord Kivu, rendons-nous à Ituri où au moins 70% des personnes qui avaient fui les exactions des groupes armés dans les territoires d'Irumu vers l'axe Komanda-Luna sont déjà retournées dans leur village d'origine. C'est le résultat des accords de cessation des hostilités par les groupes armés locaux et des dialogues communautaires appuyés par la MONUSCO. Les autorités locales et la commission de suivi de ces accords l'ont déclaré mardi à la chef de la MONUSCO en charge des opérations et des protections au cours de sa visite dans la région. Isaac Remoyopi.
Les retours des populations des différentes communautés jadis à conflit est observé dans presque tous les villages situés sur l'axe Komanda-Luna dans la chefferie de Walesevonkutu, mais aussi dans d'autres localités de la chefferie de Basili à la périphérie de Komanda. Ces personnes avaient fui vers 2022 à la suite des tensions communautaires entre les CNANDE sur la gestion des terres. Les groupes armés à tendance communautaire qui s'affrontaient souvent dans la région ont également résolu de cesser les hostilités. Toutes les communautés confondues, Bira, les CNANDE, vivent désormais dans la cohésion. Tout cela est les résultats des efforts du gouvernement avec l'appui de la MONUSCO. La chef de la MONUSCO en charge des opérations a déclaré que la mission onusienne va continuer à soutenir cette initiative positive pour la consolidation de la paix dans cette partie de l'Ituri. Viviane Van de Perre.
La MONUSCO continuera à soutenir la mise en œuvre de cet accord, notamment le travail du comité de suivi en renforçant ses capacités, mais aussi à travers la mise en œuvre des projets de développement structurants et intégrateurs, permettant aux jeunes et aux femmes de se prendre en charge.
Le territoire d'Irumo doit être pris en exemple par les autres territoires à la matière, a conclu Viviane Van de Perre. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Vous le savez peut-être, le 7 juillet est la journée mondiale de la justice pénale internationale. Au Sud Kivu, les groupes de travail sur la justice transitionnelle constatent que le champ de la justice pénale n'est pas encore suffisamment exploité en RDC. L'ASBL, Initiative congolaise pour la justice et la paix, ICJP, demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de faire en sorte que son programme fasse de la justice pénale une priorité des priorités. Raphaël Wakenge, son coordonnateur, explique davantage dans cet extrait sélectionné par Rachel Kiesembangu.
À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la justice pénale, il est à constater, en se référant au rapport, que le champ de la justice pénale est encore insuffisamment exploité dans notre pays. C'est pourquoi nous rappelons qu'il y a des recommandations qui ont été formulées par le rapport Mapping et qui viennent d'être complétées par les recommandations du rapport de ICJP pour demander que la justice pénale soit une priorité dans le programme du gouvernement. Nous demandons également à la communauté internationale de revenir sur les recommandations, notamment s'agissant de l'établissement de la Cour pénale internationale pour la République démocratique du Congo, en publiant le rapport et les annexes du rapport Mapping. Nous pensons qu'en le faisant, ça sera une promotion, une consolidation de la sanction à l'égard des auteurs des crimes graves qui ont été constatés en République démocratique du Congo.
Signalons que la nature des crimes rapportés est diverse, meurtres, travaux forcés, tortures, violences sexuelles, pillages, destruction des propriétés et autres actes inhumains. La grande partie des crimes répertoriés ont été commis dans les territoires des Kalehe et des Mwenga au sud Kivu. Ici à Kinshasa, meurtres, vols et vols à main armée sont les nouvelles formes de criminalité que vivent les habitants de quatre communes du district de la Funa. Il s'agit des Bumbu, Ngiringiri, Selembao et Makala qui partagent des frontières communes. Entre les mois de juin et juillet en cours, elles ont enregistré une dizaine de cas. Face à cette recrudescence de la criminalité, la bourgmestre des Bumbu, Marie Mukwano, a organisé ce mardi 17 juillet dans sa commune un forum de réflexion sur la situation sécuritaire avec ses homologues ainsi que des services de sécurité. Cette rencontre avait pour but de formuler de nouvelles stratégies sécuritaires afin d'éradiquer ces phénomènes. Des détails avec Miradi Fouengi.
Présent à cette rencontre, l'inspecteur territorial Moïse Boigna explique la situation sécuritaire de ces quatre communes.
Nous avons à réfléchir en fait d'éradiquer les phénomènes Kouloun et aussi les phénomènes des criminels à main armée.
Pour faire face à cette montée de la criminalité, les bourgmestres proposent des stratégies d'abord à court terme. Kabongo Longodia, bourgmestre adjoint de Makala, explique.
La meilleure des stratégies, c'est garantir d'abord la présence policière dans les points les plus criminogènes. Et la deuxième, c'est la sensibilisation dans le cadre de la synergie d'action, de manière à ce que la population puisse s'inscrire et participer à ce que nous avons défini comme stratégie. Donc, le résultat, c'est réduire significativement les taux de criminalité pour garantir la paix, la quiétude et la sécurité des personnes et de leurs biens.
Pepito Kilala, député national élu de la Funa, qui a aussi pris part à cette rencontre, appelle la population à s'impliquer dans cette lutte.
Nous avons convenu de impliquer la population sur le veille du sens du patriotisme, sur la dénonciation. Personnellement, je reste disposée à vous écouter afin de faire ma mission de porter les problèmes de mes communes plus haut.
Les bourgmestres se retrouveront la semaine prochaine pour évaluer l'impact de ces premières mesures.
De Kinshasa, rendons-nous à Kalemi où l'on signale aussi la recrudescence du banditisme. Le maire de la ville annonce que la police a pris certaines mesures pour lutter contre ces phénomènes. Dans une déclaration ce mardi à la radio Okapi, David Moukeba souligne cependant que les moyens de la police sont limités. Par ailleurs, il appelle la population à collaborer avec les services de sécurité dans la lutte contre le banditisme urbain. David Moukeba est au micro de Paulin Munanga.
C'est presque tous les jours que nous déplorons le cas de vol. Nous sommes en train de fournir des efforts. Alors, la police nationale de la ville de Kalemi, ensemble avec la mairie, nous avons amorcé de stratégies pour mettre fin à cette situation. C'est-à-dire que nous avons instauré un système de patrouille mixte, phare d'essai police. C'est presque chaque jour qu'on le fait. Il y a même le général de la police qui a donné un numéro vert où tout le monde qui peut se trouver en difficulté peut facilement appeler pour demander les secours. Il n'y a pas assez de véhicules, de jeeps pour la police. Et les quelques jeeps qu'ils ont maintenant sont déjà amortis totalement. La vétusté de ces véhicules ne permet pas de couvrir la ville ou de secourir quelqu'un dans un temps record quand il est dans les besoins. Je demande à la population de collaborer avec la mairie et la police. Il n'y a que la population qui peut nous communiquer qu'on a constaté un cas suspect, un homme sur une avenue qui n'a pas l'habitude d'habiter là-bas. Faites-nous signe le plus vite possible.
La communication par voie routière entre la ville de Bukavu et les chefs-lieux du territoire de Mwenga devient impossible à cause de la vétusté du pont Oulindi sur la rivière du même nom. La barre métallique transversale de ces ponts a cédé depuis maintenant 5 jours, rendant impossible la traversée des véhicules de gros tonnage. Les retombées sur les plans économiques sont tellement énormes, n'est-ce pas Jean Kassami?
Outre le pont Oulindi qui paralyse le trafic depuis samedi passé, il y a bien d'autres encore en état d'impraticabilité. Nos sources à Mwenga parlent des ponts Kadubo, Mudubwe et Kibi aussi effondrés. Lungele Itebo, président du bureau de coordination de la société civile du territoire de Mwenga, s'inquiète de l'isolement définitif de leur entité si le pouvoir en place tarde à réhabiliter ces ponts.
Le pont Oulindi n'est plus praticable. Parmi les 4 rails transversales, l'un de ces rails a déjà des cassures et ça peut causer des dégâts. Cette fois-là, nous demandons aux députés zélés du territoire de Mwenga, national et provincial, d'être unis et de bouger le gouvernement pour la reconstruction de ces 4 ponts. Et aussi, nous demandons à nos commerçants de ne pas doubler les prix des biens de première nécessité.
L'Office des routes, société étatique en charge des travaux des routes, ponts et chaussées, évoque le problème de manque de matériel approprié pour la remise en état de tous ces ponts qui connectent les chefs-lieux de la province au reste de ces entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Jean Kassami, Bukavu Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, un père d'une fillette de 3 mois née avec beaucoup de malformations, dont la fistule recto-vaginale, lance un cri d'alarme aux autorités et hommes de bonne volonté pour la prise en charge médicale de sa fille. Soumaïli Issa Kadhafi, comme c'est de lui qu'il s'agit, a lancé ses plaidoyers le mardi 16 juillet après l'opération de cette même fillette de la fente labiale par l'équipe de Il Africa Goma. Étant donné qu'il n'existait pas au Maniema des spécialistes pour la prise en charge de la fistule recto-vaginale, Soumaïli Issa Kadhafi appelle au secours de sa fille. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Aujourd'hui, j'ai besoin de la radio parce que ma fille est née avec une malformation de fistule rétrovaginale. Moi, en tant que son papa, j'en parle les moyens pour suivre les soins de santé de cet enfant. C'est pourquoi je viens auprès des gens qui ont de la bonne volonté de me venir en aide pour que mon enfant recouvre aussi sa vie et qu'elle soit comme toute autre personne dans la vie. À Kindu, il n'y a pas de spécialistes qui peuvent soigner cette maladie. Nous tendons la main vers le gouvernement pour que le gouvernement puisse nous amener les spécialistes pour qu'ils puissent soigner notre enfant, comme ils ont fait à Kinshasa. Il y a aussi des spécialistes à Goma qui peuvent même envoyer les spécialistes émanant de Goma pour venir soigner mon enfant ici à Kindu. Je profite dans ce micro en passant, me remercier Il Africa parce que mon enfant aussi avait une malformation de fente labiale, mais Il Africa a pris soin de ça et l'enfant est retrouvé à la normale. Et elle a recouvert aussi sa beauté. L'Afrique a donné même de la nourriture. Je dis merci parce que je n'ai rien donné comme franc congolais, comme dollar. Je dis merci.
Actualité internationale.
Les Émirats arabes unis ont levé l'interdiction des visas imposés aux Nigérians depuis 2022. Cependant, les pays du Golfe exigent désormais une vérification numérique aux ressortissants du pays d'Afrique de l'Ouest souhaitant obtenir les sésames. Selon les ministres nigérians de l'information, Mohamed Idriss, cette décision des Émirats arabes unis fait suite à des négociations mutuellement bénéfiques entre les deux gouvernements. Les demandeurs nigérians des visas devront présenter des documents prouvant leur identité et indiquant leur historique de voyage afin de générer un numéro de vérification selon les autorités émiraties.
L'invité.
Notre invité est Eric Erimirindi, conseiller municipal de la commune de Kalemi. Il revient sur les mauvaises conditions dans lesquelles fonctionne le conseil municipal faute de moyens. On l'écoute dans cet entretien avec Paulin Munanga.
Monsieur Eric Erimirindi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes élu depuis plus de 6 mois maintenant. Comment fonctionne votre conseil municipal?
Actuellement, nous fonctionnons dans des difficultés qu'on ne sait pas ici décrire. Depuis qu'on a été installé, je vais dire, en date du 23 janvier de cette année, il y a eu la proclamation des résultats des conseils municipaux. Et on a été élu à l'issue de cette élection-là. Et à dater de ces jours, on n'a jamais eu ni frais de fonctionnement, ni frais d'installation, ni frais liés aux commissions instituées, encore moins le salaire qu'on appelle communément émolument. Et d'autres avantages liés à notre statut. Donc, on travaille dans des difficultés indescriptibles.
Comment est-ce que vous vous débrouillez finalement pour fonctionner?
Tout au début, tout comme actuellement, rien n'était facile. Certains d'entre nous quittent de leur lieu d'habitation jusqu'au lieu du travail à pied. Ils rentrent à pied. On a retrouvé un système qui était déjà institué dans la commune. La commune ne vivait que des taxations. Il y a ces petits liens 500 fois qui proviennent de marchés. Chacune des communes a un certain nombre de marchés et c'est sur base de ces petits liens-là qu'ils tirent en passant par les administrateurs de marché que notre commune vit actuellement. Un certain montant d'argent que la commune réunit sur base de ces 500 francs qu'ils ont de chaque marché à hauteur de 300 000 francs par semaine. Nous, au total, nous sommes 7 conseillers municipaux. Il y a les collèges exécutifs communaux, donc le staff de bourgmestre. Quand vous faites les calculs de tout, vous voyez ce que ça vous donne. Donc, à la fin de la semaine, vous avez une affaire de moins de 10 dollars, 20 000 francs, moins de 20 000 francs.
Malgré les difficultés auxquelles vous êtes en train de faire face, vous vous réunissez en session. Il y a eu des sessions, je crois, extraordinaires et ordinaires.
Oui, oui, nous nous réunissons parce que la loi portant organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées, à son article 16, fixe pour le cas de la session extraordinaire un certain nombre de matières sur lesquelles revenir et asseoir toute une session qui, à la limite, ne peut prendre que 30 jours. Bien évidemment qu'il y a eu d'autres sessions, mais pour le cas de la session extraordinaire, il n'y a que ces 4 éléments sur lesquels revenir.
Il y a eu aussi de commissions qui sont mises sur pied.
Oui, il y a eu des commissions qui ont été instituées. D'après ce que dit la loi, on ne peut donc pas instituer les commissions aussi longtemps qu'on n'a pas encore épuisé les 4 éléments-là qui sont repris par l'article 16 de la loi portant organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Après avoir épuisé tous ces 4 éléments-là, nous sommes revenus maintenant pour instituer les commissions. Et ces commissions-là, c'est pour faire la descente, voir ce qui se passe du point de vue économique, ce qui se passe du point de vue gestion des entités territoriales décentralisées, ce qui se passe du point de vue infrastructure. C'est ainsi qu'il y a eu une commission, par exemple, dite commission d'études de faisabilité de gestion des déchets ménagers. Il y a eu une autre commission instituée en rapport avec les infrastructures, voire par exemple, si dans la commune, parce que après que nous on soit arrivés, on a remarqué qu'il y a certaines grandes artères, certaines routes principales qui étaient devenues de plus en plus envahies par les privés. Ils construisent de façon anarchique, il n'y avait plus de passage, une façon d'obstruer le passage.
Quel est le niveau de collaboration entre les conseils municipaux de la commune de Kalemi et le bourgmestre?
Le plus grand problème, c'est celui-là, et je profite de ces micros pour lancer un appel, que ce soit au président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Un appel aussi pathétique, comme qui dirait ainsi à son excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur Jacques Meshabani, pareil pour la première ministre, que vraiment ce qui nous bloque, ce qui fait que aujourd'hui le développement ne sera pas au rendez-vous dans les entités territoriales décentralisées, c'est parce que il n'y a pas l'élection de bourgmestre. Lorsque sera tenue l'élection de bourgmestre, le bourgmestre aura été redevable envers nous les conseillers communaux qui vont les lire, mais pour l'instant, ils disent qu'ils ne répondent seulement qu'au chef de l'État parce qu'ils ont été nommés par ordonnance présidentielle.
Conseiller Eric Erimirindi, merci.
Merci aussi.
Et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information des midi sur Radio Capi. Deps Vita, la mise en onde pour vous sous la supervision et coordination de Martin Sebujangwe et Blaise Shindani Kambala. Au micro, Patience Ngalula Mbombo. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.